Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas, qui méritent que l'on s'y intéresse. Car dans la Bible, tout a son importance. Continuons donc de tourner les pages bibliques et arrêtons-nous aujourd'hui sur le visage de Gédéon. Gédéon était juge en Israël. Alors nous trouvons évidemment son portrait dans le livre des Juges au chapitre 6. Mais essayons d'abord de comprendre ce qu'est exactement la fonction de juge qui le caractérise. Il s'agit bien sûr d'abord de faire appliquer la loi de Moïse et de rendre la justice dans les conflits et les litiges. Mais leur fonction est beaucoup plus large en fait, car ils ont un véritable rôle d'autorité supérieure qui leur permet de commander et de gouverner le peuple hébreu dans certaines situations. Et en général, il s'agit de situations catastrophiques qu'ils vont devoir affronter pour déployer alors toutes leurs qualités et leurs compétences. Certains juges vont littéralement devoir se comporter en sauveur pour leur peuple. Nous sommes ici, rappelons-le, dans la période qui suit directement l'installation des 12 tribus sur le territoire de la terre promise, qui fut divisé pour permettre à chaque tribu une occupation indépendante et autonome qui préserve leur tradition propre. Le juge peut donc n'avoir qu'une fonction locale au sein de sa tribu, mais parfois, dans des circonstances plus dramatiques, il devra aussi s'imposer aux autres tribus. Rappelons quand même que le peuple d'Israël s'est installé en terre promise sur une terre déjà habitée par d'autres peuples, et que forcément, ils ne sont pas tout à fait bien accueillis. Il y a donc régulièrement des attaques de tribus voisines ennemies, telles les Philistins, les Moabites, les Amorites ou les Madianites. Nous devons cependant noter que ces peuples ne s'attaquent pas à Israël simplement par hasard, mais que chaque fois, nous dit la Bible, il s'agit d'une décision qui est prise par le Dieu d'Israël, en réaction à un mauvais comportement du peuple hébreu, généralement une trahison de l'Alliance avec des sacrifices offerts aux dieux étrangers, aux dieux locaux. Nous pouvons lire d'ailleurs une description globale de ce qui va se passer sur cette terre promise au temps des juges. Je vous lis ce passage qui se trouve au chapitre 2, versets 12 et suivants. « Ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et offensèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur et ils servirent les Baals et les Astartés. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards. La main du Seigneur était sur eux pour leur malheur et leur détresse devint extrême. Alors le Seigneur suscita des juges qui les délivrèrent de ceux qui les pillaient. Mais même leurs juges, ils ne les écoutaient pas. Quand le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge et il les délivrait. Mais à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir. Aussi le Seigneur laissa-t-il subsister ces nations ennemies pour mettre par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils obéiraient au commandement que le Seigneur leur avait prescrit. » Voilà, c'est donc le contexte général. Et maintenant, regardons plus précisément l'histoire de Gédéon, juge en Israël par la grâce de Dieu, comme nous le raconte le chapitre 6 du livre des Juges. Le récit commence par une notice classique décrivant la situation. Je vous lis. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. Voilà, l'ennemi, c'est Madian. Après quoi, donc, très affaibli à cause des invasions des Madianites, Israël va se tourner vers le Seigneur et supplier. Alors, un ange fut envoyé à Gédéon, et je vous lis leur dialogue. L'ange du Seigneur apparut à Gédéon et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon répondit « Pardon, mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madian. » Alors le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon objecta « Pardon, mon Seigneur, mais comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé et moi, je suis le plus jeune de la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit « Je serai avec toi et ainsi tu battras tous les Madianites. » Voilà, nous avons donc ici des indications pour comprendre qui était Gédéon. C'était donc le fils de Yoash, qui lui-même faisait partie du clan d'Aviézer, de la tribu de Manassé, l'un des fils de Joseph. Remarquons quand même qu'il devait avoir un sacré caractère pour accueillir la bénédiction d'un ange par des récriminations. Et plus encore, quand il ose mettre en doute la promesse du soutien de Dieu. Il objecte qu'il n'est pas grand-chose face au nombre et à la force des ennemis, qu'il est encore très jeune et que son clan est faible. Mais Dieu n'est pas choqué par les objections de Gédéon. Et rappelons-nous que, comme lui, la Vierge Marie elle-même commença par résister à l'annonce de l'ange Gabriel en demandant plus d'explications. Cette façon de chercher à mieux comprendre montre en fait tout le sérieux qui est accordé aux paroles angéliques. Et pourtant, Gédéon ne se contentera pas de la promesse de Dieu qui lui dit « Je serai avec toi ». Il va lui demander des preuves par un signe concret. Je vous lis « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Je t'en prie, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne vers toi pour apporter une offrande et la déposer devant toi. » Et le Seigneur dit, « Je resterai jusqu'à ton retour. » Voilà, Dieu supporte donc encore la méfiance de Gédéon. Et pourtant, nous voyons souvent dans la Bible que Dieu n'accorde pas facilement ce genre de vérification par des signes. Jésus supportera assez mal qu'on lui demande un signe. Voyons ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, où Jésus répond à ceux qui lui demandent un signe, « Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. » Mais ici, par contre, à Gédéon, ce signe va lui être accordé. Reprenons la lecture du livre des juges pour y découvrir qui est Gédéon. Il vient donc de proposer à Dieu une sorte de vérification du message de l'ange. Et pour lui, Dieu accepte de se soumettre à une épreuve. Gédéon vient alors lui apporter une offrande de viande et de pain. Je vous lis chapitre 6, versets 20 et suivants. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher. » Ainsi fit Gédéon. Alors l'ange du Seigneur étendit l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et les pains. Et le feu jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Et puis l'ange du Seigneur disparut. Voilà. Enfin, devant ce miracle, Gédéon est un peu rassuré. Il est maintenant certain que c'est Dieu lui-même qui lui a confié la mission de juge en Israël pour vaincre les ennemis madianites et ramener son peuple dans l'obéissance à la loi de Moïse. Et désormais, il entre en relation directe avec le Seigneur qui lui parlera personnellement donc pour le guider dans ses missions. Et nous le voyons dans un premier temps aller détruire un autel consacré au dieu Baal pour le remplacer par un autel consacré au dieu d'Israël et y offrir un premier holocauste. Alors cet acte provoqua évidemment un scandale et fut interprété par les Madianites comme une véritable déclaration de guerre. Ils firent alors alliance avec la tribu voisine des Amalécites pour venir ensemble attaquer Israël. Nous lisons au verset 34 du chapitre 6. « L'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon, qui sonna du cor et convoqua tout le clan d'Aviézer à le suivre. Il envoya des messagers dans tout Manassé pour les convoquer également à le suivre. Puis il envoya aussi des messagers dans les tribus d'Asher, de Zabulon et de Nephtali pour qu'ils montent à leur rencontre. » Ainsi, nous avons là un exemple d'intervention d'un juge qui s'élargit à quatre autres tribus pour pouvoir faire face à une coalition de nombreux adversaires. Mais décidément, Gédéon est un homme inquiet qui s'angoisse devant le conflit militaire qu'il est maintenant obligé d'affronter, et sa réaction est de demander à Dieu de nouveau un signe pour être bien sûr de son soutien. Alors nous lisons verset 36 du chapitre 6. « Voici, je vais étendre sur le terrain une toison de laine. Si demain il y a de la rosée sur la toison, mais si tout le terrain est resté sec, je saurai que tu veux sauver Israël par ma main. » Et il en fut ainsi. Et voilà, et Dieu l'exauce. Il est décidément patient et compréhensif envers les états d'âme de Gédéon. Et pourtant, ce signe ne suffira pas quand même à réconforter Gédéon qui revient à la charge. Verset 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison. Mais cette fois, que la toison reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le terrain. Et cette nuit-là, Dieu fit ainsi. Seule la toison resta sèche et il y eut de la rosée sur tout le terrain. Voilà. Remarquons quand même que les précautions oratoires de Gédéon, quand il commence à s'adresser à Dieu pour qu'il ne se mette pas en colère, ça révèle qu'il doit quand même être conscient que son inquiétude est un rien excessive, voire même un peu exaspérante. Mais voilà, Dieu l'a choisi comme juge, et donc le Seigneur supporte les angoisses de Gédéon, parce que celui-ci va devoir affronter un terrible combat pour défendre l'honneur du Dieu d'Israël face aux dieux étrangers. Et Dieu va aussi avoir, lui, quelques exigences et même des épreuves à présenter aux fils d'Israël pour choisir ceux qui seront dignes de monter au combat. Le Seigneur veut choisir car il veut que l'on puisse reconnaître son intervention dans les combats. et parce qu'il veut impressionner l'adversaire dans une confrontation qui soit visiblement très inégale. En effet, nous lisons au chapitre 7, verset 12, « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étalaient dans la plaine, aussi nombreux que des sauterelles. On ne pouvait compter leurs chameaux, aussi nombreux que des grains de sable sur le bord de la mer. » Voilà, même si c'est un peu exagéré, ça montre d'innombrables ennemis. Or, le Seigneur va imposer à Gédéon de sélectionner un tout petit nombre de guerriers en Israël. Trié par des mises à l'épreuve, tout à fait surprenantes, et il n'y aura finalement que 300 guerriers choisis par Dieu, sur le critère qu'ils auront refusé de se mettre à genoux pour boire de l'eau, mais qu'ils l'auront recueillie dans leurs mains pour la porter à la bouche et là, la paix. Voilà, drôle de critère. Donc, en fait, il ne reste plus que 300 hommes contre une armée innombrable. Voilà le défi que Dieu impose à Gédéon pour manifester la puissance de son aide. Et cette fois, c'est le Seigneur lui-même qui va envoyer à Gédéon un présage pour le réconforter d'avance et ainsi éviter qu'il doute ou prenne peur au dernier moment. C'est donc gonflé à bloc et sûr de lui maintenant que Gédéon annonce à ses guerriers « Levez-vous, car le Seigneur a livré entre vos mains le camp de Madian. » Mais comment cela pourra-t-il se faire ? En fait, d'abord par une ruse destinée à tromper l'ennemi. Voilà comment. Gédéon va donner à chacun des guerriers une cruche et un corps. Puis, il va diviser le groupe en trois sous-groupes de 100. Et ils vont ainsi pouvoir encercler le camp des Madianites. Gédéon leur explique, je vous lis. « Regardez-moi. Quand je serai arrivé aux abords du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Je sonnerai du cor et briserai la cruche. Moi, puis tous ceux qui seront avec moi. Alors, vous aussi sonnerez du cor et briserez la cruche tout autour du camp en criant pour le Seigneur et pour Gédéon. » Voilà, et la suite est vraiment étonnante puisque, en fait, les Madianites se sentent encerclés par énormément de bruit, de fureur et de fracas, et ils vont s'affoler. Ils vont se mettre à courir dans tous les sens à l'intérieur du camp. Et finalement, nous dit le verset 22, « Le Seigneur fit que dans tout le camp, chacun dirigeait son épée contre son camarade et tous s'enfuirent en direction du Jourdain. » Voilà, Dieu préfère donc intervenir par la victoire de l'intelligence et de la ruse de Gédéon, plutôt que par la masse de guerriers qui s'affrontent. Mais le combat n'est quand même pas encore terminé, car à partir de là, Gédéon fait appel aux autres tribus qu'il avait convoquées, avec lesquelles il avait fait alliance, pour qu'ils rattrapent les fuyards et s'en emparent, ou les mettent à mort, ce qui fut fait, bien sûr, non sans vexer ceux de la tribu d'Éphraïm qui se sentent un peu humiliés de n'avoir eu presque rien à faire. Il a fallu que Gédéon ait beaucoup de tact et de diplomatie pour apaiser la rancœur des Éphraïmites. Enfin, pour terminer avec ces 300 hommes, Gédéon continue lui aussi à pourchasser ses ennemis au-delà du Jourdain, jusqu'à venir à bout de plusieurs rois de Madian et à vaincre tout le monde complètement. Continuons de nous intéresser au visage de Gédéon, juge en Israël, qui vient de terminer une guerre pour libérer Israël de ses agresseurs madianites. Nous devons d'abord remarquer qu'il a été choisi par Dieu dans ce but, malgré son tempérament un peu angoissé et vraiment méfiant, et qu'il n'a pas été investi de cette responsabilité parce qu'il est le plus grand et le plus fort des Hébreux, mais qu'au contraire, c'est un homme jeune issu d'un petit clan peu important. Et d'ailleurs, ce que veut le Seigneur Dieu d'Israël, c'est montrer que de lui seul dépend la victoire, de son intervention et de la bonne relation avec son élu, Gédéon, qui ne doit pas miser sur la force brutale des affrontements, mais plutôt sur l'intelligence et la ruse, comme s'il fallait amener une pointe d'humour dans cette guerre. Il faut dire que toute la Bible est traversée de cette constante du choix d'un plus petit ou d'un plus faible pour vaincre un ennemi qui se croit tout puissant, mais qui devra ainsi s'incliner, non pas devant le petit adversaire, mais bien devant le Dieu d'Israël qui vient sauver et protéger son peuple. Jusqu'à Saint Paul, d'ailleurs, qui se réjouira, dit-il, de ses infirmités et dira « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Et la ruse est souvent présentée comme une qualité de l'intelligence pour compenser la faiblesse physique. Nous l'avons déjà vu pour Jacob, par exemple. En tout cas, Gédéon n'a pas encore totalement fini son travail après la victoire sur les Madianites, car il doit maintenant continuer son métier de juge en empêchant les Hébreux de trahir à nouveau leurs engagements envers Dieu et en respectant la loi. Dans un premier temps, ça ne sera pas difficile, car les hommes d'Israël sont enthousiastes et ne jurent plus que par Gédéon jusqu'à le plébisciter pour qu'il devienne leur roi et fonde une dynastie. Nous lisons ça au chapitre 8, verset 22. « Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Sois notre souverain toi-même, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Voilà, mais c'est mal connaître Gédéon qui va bien sûr refuser l'offre. Et au verset suivant, nous lisons qu'il leur dit « Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils, mais que le Seigneur soit votre souverain. » Car Gédéon ne cherche pas pour lui le pouvoir. Il ne veut qu'obéir au Seigneur Dieu d'Israël, et son seul souhait est qu'il en soit de même pour tout son peuple. En fait, dès que la loi fut donnée par Dieu à Moïse, le projet était que tous obéissent à ces lois divines dans une alliance respectueuse pour obtenir une vie droite, paisible et bien ordonnée qui leur apportera le bonheur et la prospérité. Plus question alors de lutte pour le pouvoir, de conflits armés ni de guerre, Israël étant organisé par la loi selon le droit et la justice, il devait être en même temps protégé par la providence de Dieu. C'est un beau projet, malheureusement, les choses ne se passent pas du tout de cette façon, parce que la soumission à la loi du Seigneur, qui pourtant avait été acceptée par tous dans le principe, devant Moïse. En réalité, il semble bien que l'attirance vers le désordre et la débauche ait toujours été la plus forte. Les textes bibliques, et particulièrement le livre des Juges, sont hélas assez pessimistes à ce sujet. Je vous lis par exemple la fin du chapitre 8 pour comprendre. Gédéon, fils de Joash, mourut après une heureuse vieillesse. Et il fut enseveli dans le tombeau de Joash à Ophra d'Aviézer. Mais après la mort de Gédéon, les fils d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils adoptèrent Baal-Berit comme Dieu. Les fils d'Israël ne se souvinrent plus du Seigneur leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour, et ils ne firent preuve d'aucune loyauté envers la maison de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Voilà, même le texte biblique est un peu désolé. L'histoire des Hébreux semble perpétuellement soumise à ces moments d'oubli de Dieu, de trahison de l'Alliance et de désobéissance à la loi d'Israël. Mais en même temps, le Seigneur leur Dieu se montre toujours infiniment patient et renouvelle sans cesse d'autres propositions d'alliance. Pour Gédéon, il semble bien que tout n'est pas complètement terminé à sa mort, puisque c'est un de ses fils, Jotham, le plus jeune de ses fils, et on dit qu'il en eut 70. C'est à ce Jotham que reviendra l'honneur de sauver l'œuvre de son père, mais malheureusement après de terribles bains de sang. Car c'est d'abord un autre fils de Gédéon, Abimélec, qui va prendre le pouvoir et commettre des horreurs sans nombre qui nous sont racontées tout au long du chapitre 9 du livre des Juges. Je vous lis simplement la fin de ce chapitre. Dieu fit retomber sur Abimélec tout le mal qu'il avait fait à son père. Voilà, il semble y avoir une moralité à ce texte, que malgré la méchanceté humaine qui ressurgit régulièrement, l'espérance d'un avenir meilleur subsiste grâce à quelques-uns. N'empêche que le livre des Juges dans son ensemble est assez pessimiste sur la capacité des êtres humains à vivre heureux simplement en accord avec les lois de Dieu. C'est pourquoi cette période finira par aboutir à un tout autre régime politique, celui des rois d'Israël, régime beaucoup plus autoritaire, mais qui finalement lui aussi aboutira à des catastrophes. Mais ceci est une autre histoire. Terminons là le récit de la vie de Gédéon, juge en Israël, qui nous laisse le visage d'un homme fidèle à Dieu, qui mena courageusement de justes combats, permettant ainsi à son peuple de vivre dans la paix et la justice, du moins pendant le temps que dura sa vie. À présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.